pas son genre avec Julia Foyz. Bonsoir.
Bonsoir Maria Melcurdi, on vous retrouve à 21h pour un nouveau flash et moi je me demande comment je dois prendre le fait qu'il y a un spot sur les peaux à tendance acnéique juste avant pas son genre. Allez. C'est l'histoire d'une trentenaire, elle est blonde, blanche et bouclée. Ses copines sont délurées. Elles sont belles et bien habillées, new-yorkaises, elles nous font rêver. Elles ont des jouets qui font vibrer. Ça parle de sexe, ça fait du sexe, un grain de folie in the city. Oui, mais un jour, ça, c'est fini. Carrie et puis ses trois amies se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Le godemiché est au placard en souvenir de leur vie d'avant. Tant pis pour leurs anciens rancards. Ouf, elles sont rentrées dans le rang. 6 ans plus tard, banlieue huppée, clôture en bois et lourd secret. C'est alors une autre histoire qu'on va pouvoir se raconter. C'est l'histoire d'une femme, de son homme, elle s'appelle Ève, lui c'est Adam. C'est l'histoire d'une femme, d'une pomme, elle sourit et elle croque dedans. Ah non pardon, elle va croquer, mutine, provoque, je crois qu'elle se moque. Femme au foyer, désespérée, desperate housewife en anglais. Le mythe, elle te l'a retourné et désossé et démembré. Et maintenant elle te bouffe l'écran, il n'y a plus de serpent. Quant à Adam, il s'est gaufré, il a chuté, pas besoin d'une femme pour le pousser. Seul comme un grand, il s'est tollé. Le coup d'après, elles l'ont tué. Seule sur la plage, les meurtrières regardent loin devant la mer. Sororité ensanglantée, toutes seules, elles se sont débrouillées pour dégager l'amant violeur, mari violent, mâle dominant. Est-ce qu'on serait pas mieux entre nous? La question se pose depuis MeToo. Ici, enfin, on y répond. Pas de panique, c'est une fiction. Big Little Lies, ce générique. À l'écran, une révolution.
France Inter. Julia Foyz. Pas son genre.
Bonsoir, bienvenue. Le mouvement MeToo a-t-il profondément changé les représentations féminines à la télé ou bien est-ce qu'au contraire ce sont les séries elles-mêmes qui ont impulsé le mouvement? Quelle place, quel rôle aujourd'hui pour les femmes sur le petit écran? C'est la question qu'on se pose ce soir dans Pas son genre et on le fait avec vous, Iris Bray. Vous êtes universitaire, critique et autrice du très bon Sex and the Series. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je précise que c'est cette scène de fin de Big Little Lies que je décrivais à l'instant qui ouvre votre livre, mais on en reparlera. Évidemment. Avec nous également Olivier Joyard, documentariste, spécialiste série et critique aux Un Rock. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant de se plonger voluptueusement et jusqu'au cou dans le monde fabuleux des séries télé, c'est une petite question rituelle ici dans Pas son genre. Olivier Joyard, si je vous dis mauvais genre, votre petit côté canaille, ce serait quoi?
Je sais pas, à part mon rapport, mon refus du peigne, je vois pas trop.
Et effectivement, vous avez un très joli.
Je me coiffe à la main depuis 1987, donc ça laisse forcément des traces, en fait.
Il y a quelques traces, là, sur les pieds au niveau du casque, hein. Je confirme, voilà. Mais ça vous va très bien. Et vous, Iris Bray, qu'est-ce qui, chez vous, pourrait faire joliment mauvais genre?
Je pense faire pipi debout l'été.
Oh, vous faites ça?
Oui, je trouve. Bah, si on peut faire que l'été, quand on est une femme, c'est comme ce que la plupart de l'année, je suis en pantalon, puisque je vis à Paris, que je ne mets pas de robe, ni de jupe, mais je trouve que, ouais, c'est un des plaisirs de l'été qui vient de se terminer.
Ok, vous êtes définitivement mon héroïne, j'aime beaucoup. Le coiffage à la main aussi, parfait pour nous. De toute façon, ici, tous les genres, bons ou mauvais, seront toujours les bienvenus. On prend tout, on prend rien, on prend tout ou rien. Et ça, c'est Marie-Flore sur France Inter.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde, tout s'éteint dans tes yeux bleus clin. De façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. Nous deux c'était rien. Je suis comme un piéton qui suscite, qui traverse la rue hors des clous, j'encaisse tes coups. Y'a comme un crissement sous mon sein, sur mes joues rouges, mais ça l'éteint, j'encaisse tes coups. J'encaisse tes coups. Toi ferme-la, tais-toi, toi tu sais pas.
Rien, Marie-Flore, et je vous en recommande le clip. Joli cocktail de perfecto en cuir, de robe de mariée et de fumée de cigarette. Oui, ça, c'est bien le genre, de pas son genre. Et les séries, c'est notre cam ce soir. Quelle place pour les femmes, pour leur plaisir en particulier, pour les sexualités en général. On en parle avec nos deux spécialistes, Iris Bray et Olivier Joya. Précision utile, l'offre anglo-saxonne étant ce qu'elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus inventive qu'ailleurs, elle dominera largement ici ce soir, quoi qu'il en soit. On en a des choses à se dire parce que, vous savez quoi, d'Alerte à Malibu à Killing Eve en passant par Girls, on en a fait du chemin. Oh oui!
Passons genre.
I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
He tied my hands. He said if I screamed, he'd kill me.
No signs of forced entry. Doors and windows were locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing.
He brought a blindfold, but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her?
You think Marie made up the attack?
I'm pretty positive that it happened.
Pretty positive or positive?
They just kept asking me the same question. How come your story doesn't add up? I wanted to go home.
I don't have a victim here. It's bogus. She made it up.
Une adolescente violée en pleine nuit à son domicile qui ensuite entame une longue et pénible démarche au commissariat. Voilà comment démarre Unbelievable, toute nouvelle mini-série Netflix, l'un des chocs de la rentrée. Ça frappe très fort, ça prend au trip. Et pour être tout à fait honnête, c'est vous qui me l'avez suggéré sur Twitter, Olivier Joyard. Mais pourquoi? Pourquoi cette série-là?
Moi, ça m'a frappé, en fait, de voir que c'était un peu l'apogée d'une évolution des séries par rapport aux questions de genre et aux questions de féminisme et aux questions notamment des violences faites aux femmes. Il y a eu Big Little Lies, dont vous avez parlé
Où il y a déjà question longtemps. De violence conjugale et de viol.
Absolument, ouais. Et donc, et où il y a une sorte de... La sororité se met en place et quelque chose se crée. Là, c'est un peu la même question, mais c'est à partir d'une histoire vraie, c'est-à-dire il y a eu une enquête journalistique, d'eux-mêmes, qui ont ça parlait de cette histoire d'un viol, donc de cette jeune femme qui est l'héroïne de la série, mais c'est pas la seule héroïne. Et en fait, c'est ça qui est assez génial dans Unbelievable, c'est que ça devient autre chose au début. C'est pas juste l'histoire d'une femme. Ça devient l'histoire de plusieurs femmes, mais quasiment d'une communauté. Quoi.
C'est-à-dire plusieurs femmes victimes et puis deux inspectrices.
C'est ça.
Merveilleusement bien joué.
Ah ouais, c'est Toni Collette et Merritt Weaver qui étaient dans Nurse Jackie. Et donc ça devient en fait une sorte d'une série d'enquêtes policières, mais qu'on n'a jamais vu parce qu'on voit un kit de viol dès le premier épisode. On voit des conversations sur les profilages des violeurs, etc. Ça. Pour moi, ça efface des années de représentation
sur le viol.
Ouais, ça prend une ampleur vraiment nouvelle.
Et j'ai trouvé ça pour le coup extrêmement juste aussi dans ce que ça dit de comment on regarde une victime qui porte plainte, de comment immédiatement sa parole est remise en cause, en doute, les soupçons qui pèsent sur elle, la solitude énorme qui la submerge. Vous, Iris Bray, vous en avez pensé quoi de cette série?
Oui, c'est ça qui change. En fait, il y a quand même une fascination dans les séries américaines récentes pour les serial killers et les serial rapistes, c'est-à-dire que
les corps, violeurs,
voilà. Donc, on a vu beaucoup d'images où en fait ces crimes-là étaient presque érotisés, ou en tout cas il y avait une fascination pour celui qui tuait ou qui violait, et on parlait jamais des victimes, c'est-à-dire que souvent on ne voyait même pas leur visage. Et dans les séries True Detective ou les Ted Bundy tapes qu'on a pu voir sur Netflix. Netflix, c'est vraiment ça. Et là, je pense que c'est la première fois qu'on est du point de vue des victimes. Et ça change tout, en fait, de raconter un crime drama, enfin de suivre une enquête criminelle qui n'est plus fascinée par la personne tue et qui viole, mais par la personne qui doit vivre avec ça pour le reste de ses jours et qui n'est jamais prise au sérieux. Et c'est vrai que Olivier parle du premier épisode avec le rape kit où on voit donc l'héroïne qui va dans un hôpital et qui doit donc remettre son corps à l'épreuve. Mmh. Et toute la mise en scène nous dit déjà, tiens, est-ce qu'on est en train de la traiter comme une victime ou est-ce qu'elle est coupable de quelque chose. Et en fait, elle est presque filmée comme une détenue. On la voit avec un bracelet sur son poignet. On la voit, on prend des photos d'elle comme si elle arrivait à un interrogatoire. Et on retranscrit cette violence qu'une victime doit revivre à nouveau. Et ça, c'est nouveau.
Et alors, elle et les deux inspectrices sont des personnages très forts, très complexes. Hein, et c'est un pas de plus dans une tendance assez récente. Je vous cite une étude du CSA sur la place des femmes à la télévision. Elle a pris encore 2 points entre 2016 et 2018. Avec 44% de personnages féminins dans les séries, c'est bien là que les femmes ont le plus de poids sur le petit écran. En quoi c'est important ? Quel rôle jouent les séries dans...
Cette série sur Unbelievable, sur la question des victimes de viol, de la façon dont le viol est traité par la police, par le système judiciaire, et qu'est-ce que c'est qu'une parole au fond dans notre société aujourd'hui, parce que c'est ça que ça pose, en fait. C'est hyper important. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est à la fois une vertu éducative, et en même temps, ça ne perd pas du côté de la fiction. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement
c'est
palpitant.
C'est très pédagogique, et en même temps.
Raconte, en fait, comment une parole est niée. Et comment finalement une parole va finalement circuler et reprendre forme, en fait. En fait, les femmes vont reprendre la parole au fur et à mesure de la série. Et je trouve ça assez fabuleux parce que c'est à la fois la parole des victimes et la parole des flics entre elles qui se parlent, qui s'écoutent. C'est toutes les formes de la parole féminine, en fait, qui sont mises en scène dans cette série.
Iris Brett, dans votre livre, vous parlez de la fonction révolutionnaire des séries. C'est à ce point-là.
Moi je pense que oui, parce que je pense que déjà elles inondent nos écrans, elles sont accessibles à tous et à toutes, il y a une forme démocratique qui vient avec la série, qui n'y a pas toujours avec le cinéma, et je pense que du coup on peut avoir un impact mondial, enfin voilà, les plateformes aussi amènent ça.
Est-ce qu'elles vont jusqu'à anticiper les mouvements de société ou simplement elles les épousent, elles les suivent, elles
en sont le reflet ? Qu'elles les anticipent d'une certaine, enfin surtout les séries hollywoodiennes, elles les anticipent d'une certaine manière. Parce qu'on a eu, on a des showrunneuses, donc les personnes qui dirigent les salles d'écriture ou les créatrices, parce que c'est souvent des femmes qui s'emparent de ces thèmes-là, il ne faut pas se leurrer. Ces femmes-là sont des femmes politisées. Donc c'est des femmes qui font partie du mouvement Time's Up, c'est des personnes...
On rappelle Time's Up ?
On rappelle Time's Up.
Si, on rappelle Time's Up. Donc, mouvement lancé quasiment au lendemain de l'affaire Weinstein et qui se bat notamment dans le cinéma, mais aussi à la télévision, contre toute forme de sexisme. En gros.
Oui, voilà. Donc, Shonda Rhimes, par exemple, qui s'occupe de Grey's Anatomy, Reese Witherspoon, qui s'occupe de Big Little Lies, toutes ces femmes-là, en fait, qui sont en train de créer des nouvelles images et des nouvelles formes de narration, sont aussi impliquées dans les mouvements politiques. Et ça, c'est très rare. Et c'est pas quelque chose qui en va arriver dans les séries françaises, mais qui est peut-être plus dans le cinéma français. Par contre, pour revenir à l'étude des CSA, il faut aussi s'interroger sur quelles sont les femmes qui sont représentées et qu'est-ce qu'elles racontent dans les séries et comment est-ce qu'elles sont filmées.
Oui, c'est-à-dire que qualitativement, ça fait un petit peu moins plaisir. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt douces, plutôt mariées, plutôt fidèles. Alors, pour comprendre d'où on vient, et on revient de loin, on vous a demandé à tous les deux, en préparant cette émission, de nous donner l'exemple d'une série où, justement, les personnages féminins étaient stéréotypés, voire caricaturaux. Alors ça, c'est pour vous, Iris Bray, Melrose Place, sa résidence pour trentenaire à West California. Ces 226 épisodes dans les années 90, son souffre, sa luxure, ses intrigues et ses dialogues.
Sydney, ta nouvelle coupe est splendide.
Tu es sérieux ?
Oui.
Oh, merci, c'est vrai.
Mais je t'en prie, assieds-toi. Voilà.
Merci.
Alors, qu'est-ce que tu dirais de gagner un peu plus d'argent rien qu'avec ta jolie frimousse ?
Eh bien, continue.
J'aimerais que tu uses de ton charme féminin pour séduire Bobby Parizzi.
Qu'est-ce que tu veux dire par user ? Tu me demandes de coucher avec lui ?
Non, bien sûr que non, voyons, Sydney. Non, je ne te demande pas d'aller jusque-là. Mais si tu le fais, tu seras récompensé.
Qu'est-ce qui te fait penser que je coucherai avec un homme pour de l'argent ? Je ne le fais plus depuis très longtemps.
Le premier point, ce sera 1000 dollars. Le deuxième point, 2. Et le troisième, 3000. Et ainsi de suite.
Je vous vois sourire, Iris Bray. Je me demande ce que signifie ce sourire.
Et en fait, je me rends compte que j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire que moi, ça, c'est les Melrose Place, c'est la série qui était diffusée quand moi j'étais adolescente et je réfléchis à l'impact. Ça me fait sourire parce que je réfléchis à l'impact de tous ces mots, toutes ces images que moi j'ai pu ressentir, mais aussi toute une génération où on voit aussi beaucoup de femmes se battre entre elles et la sororité, le fameux
crépage de chignon.
Voilà, n'est vraiment pas représentée et je me dis tiens, qu'est-ce que ça aurait changé de grandir avec Big Little Lies à la place. Voilà, c'est la question que je me pose.
Votre série Collector, Olivier Joyard, c'est l'une des plus regardées au monde. À mon avis, rien qu'en entendant le générique, ça va faire tilt à plus d'un. On est à peu près à la même période que Melrose Place. Hein. Ça court sur toute la décennie 90. D'ailleurs, ils courent un petit peu tout le temps, hein, ceux-là, sur le sable, avec leur maillot de bain tout rouge et très, 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 très échancré. On est où, là ?
À Malibu, évidemment. En Californie.
Alerte à Malibu, qu'est-ce que vous en retenez, vous, et en quoi elle raconte une époque qui serait aujourd'hui complètement révolue ?
Bah, c'est vrai que je pense qu'au bout de 5 minutes d'antenne de Alerte à Malibu en 2019, ça serait impossible, en fait.
Voilà. Pourquoi précisément, par exemple ?
À la fois au génie kitsch et à l'horreur sexiste, quoi. C'est un peu comme ça que je la définirais, cette série. Ouais. C'est le pur male gaze, c'est-à-dire le regard masculin qui a été théorisé
sur
par Laurent
Mulvey.
Le cinéma notamment. Bon, là c'est une série, mais c'est en gros des femmes en maillot de bain, objets. Alors il y a des hommes objets aussi, mais dans mon souvenir, c'était pas. On se souvient quand même de Pamela Anderson avant tout, et d'une façon.
On se souvient David Hasselhoff,
de faire. Oui, mais je pense qu'elle est restée en fait avec ce maillot de bain rouge dans l'imaginaire.
Et c'est
comme...
terrible ce que j'allais dire. Et on se souvient de. Je me souviens plus de son nom, mais je me souviens de ses tablettes. Donc
voilà. Disons que c'était peut-être un peu plus à égalité qu'on pourrait le croire, mais surtout c'était un peu à contre-courant en fait de l'histoire de la télé. Quoi. Moi, j'ai toujours trouvé que. Enfin, quand je regardais les vieilles séries, c'était quand même le lieu où les personnages féminins pouvaient s'exprimer peut-être de manière un peu plus intéressante qu'au cinéma. Je sais pas si c'est dû au fait que la plupart des spectateurs étaient des spectatrices, la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui a longtemps été la cible des annonceurs. Mais dès les années 50, I Love Lucy, c'est la série la plus regardée aux États-Unis. Donc c'est une héroïne, Lucille Ball, qui est, c'est la première femme enceinte dans une série qu'on voit. Il y a eu tout un épisode en 1952, je crois, sur cette question. Il disait pas le mot enceinte, si il disait enceinte mais en français. Je sais pas pourquoi.
Incroyable.
Il voulait pas dire pregnant. et puis dans les années 70, il y a eu Mary Tyler Moore qui d'ailleurs a influencé Lena Dunham et Girls ensuite et lui a rendu hommage quand celle-ci est morte. Ouais. Mais le Mary Tyler Moore Show, c'était une héroïne qui n'avait pas de mari et qui n'avait pas spécialement envie d'avoir un enfant. Et ça, en 1970, c'était
ça
pas mal.
Ça, c'est une exception pour le coup.
Donc il y a toujours eu ça à la télé quand même, malgré tout.
Alors Melrose Place et Alerte à Malibu disparaissent avec le XXe siècle, engloutis juste avant le bug de l'an 2000. Entre-temps, elles sont arrivées, elles, sur le petit écran, Carrie et ses trois copines, les héroïnes de Sex and the City. À l'époque, on les trouve très gonflées, très osées, très libres. Il en reste quoi près de 20 ans plus tard, Iris Bray, de ces quatre-là ?
Il reste encore beaucoup de choses, c'est-à-dire que je pense qu'en évoquant même Carrie Bradshaw, j'ai encore vu son nom sur Twitter aujourd'hui, enfin, donc il y a quand même une image qui perdure. Elle représentait une liberté sexuelle, je pense qu'elle la représente encore aujourd'hui. Sauf
liberté sexuelle ou pas ? Parce qu'elle passe quand même toutes les saisons à attendre Mr. Big, donc...
Bah, c'est différent d'attendre le prince charmant et de se faire jouir. C'est deux choses différentes. C'est les premières femmes qu'on voit vraiment qui parlent d'orgasme et de la quête de l'orgasme. Et ça, je pense que c'est très important et c'est encore très, très rare aujourd'hui. Après, je pense que là où on l'attaque aujourd'hui, c'est qu'effectivement, beaucoup de leurs conversations entre elles tournent autour des hommes et du mariage et des enfants.
Qui reste la finalité quand même.
Oui, mais c'est une finalité, mais il y en a, dans les quatre, il y en a pas beaucoup qui accèdent, par exemple, à ça, ou qui revendiquent que la maternité est quelque chose d'épanouissant ou que finalement d'épouser l'homme Mr. Big, c'est finalement un peu, c'est pas ce qu'on attendait. Donc moi je défends plutôt cette série parce que même si elle a été conçue par un homme, choronnée par un homme, il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient, qui faisaient partie des scénaristes et c'est quand même incroyable le fait qu'elle parle du sextoy The Rabbit. Enfin, ça a changé la vie de beaucoup de femmes, de pouvoir parler de masturbation féminine. Et puis, il y avait vraiment des dialogues extrêmement bien écrits. C'est incroyable. Moi, je revois cette série, je ris encore parce qu'il y a une qualité en fait d'écriture qu'on a un peu perdue parfois. Et je pense que quand Lena Dunham ouvre Girls et nous met un poster en fait de Sex and the City dans la chambre de Shoshana,
c'est pas pour rien, c'est pour dire je suis l'héritière de ça, et en même temps je vais raconter quelque chose de différent.
Alors, on va en parler de Girls, mais il y a une étape quand même dans cette trajectoire. On ne passe pas de Sex and the City à Girls directement. Il y a l'étape Desperate Housewives que j'évoquais aussi en tout début d'émission, avec ce générique qui est pour le coup à la fois hyper drôle et hyper lisible, où elles vont croquer une pomme et où la pomme assomme Adam et il se casse la gueule tout seul. Et effectivement, c'est pas la femme n'est plus pécheresse ou tentatrice. Dans l'histoire des héroïnes de séries télé, Desperate Housewives, vous le placez où, vous?
Moi, je le place en sororité ou en parenté, je ne sais pas, avec Sex and the City, parce qu'elle est venue, en gros, elle a commencé quand Sex and the City allait bientôt s'arrêter, je crois.
2004,
Et moi, j'aime énormément Sex and the City. Je trouve qu'elle a été méprisée par rapport aux autres grandes séries de l'âge d'or HBO, c'est-à-dire Les Sopranos, The Wire et Six Feet Under,
oui, qui étaient majoritairement masculines. C'est aussi parce que c'était quatre femmes toutes blanches, toutes
absolument,
hyper branchées, toutes riches, toutes belles.
On ne referait pas Sex and the City de la même manière en 2019, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher ça. On peut lui reprocher peut-être une sorte de... une tendance à croire un peu dans les contes de fées et à structurer le récit autour de ça. Mais c'était aussi une vision du récit de la comédie romantique classique, des grandes comédies hollywoodiennes. Donc il y avait quelque chose que j'aimais bien. Dans Desperate Housewives, moi, je me souviens plus qui, mais l'une des actrices disait que le showrunner Mark Cherry avait un vagin à la place du cerveau. C'était ça. C'était lors de la première saison.
Alors,
donc, voilà.
Et c'est aussi à lui qu'on doit, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'arrivée de personnages gays, mais qui ne soient pas là pour être gays et qui ne soient pas à la marge et qui sont des couples de bourgeois au milieu d'autres bourgeois de cette banlieue-là. Est-ce que la courbe des personnages gays ou lesbiens dans les séries suit la même que celle des femmes, Iris Bray ou Olivier Joyeux, comme vous voulez?
Le premier baiser lesbien dans les séries télé, c'est Buffy contre les vampires. Et c'est très tardivement, c'est-à-dire qu'il y a déjà une relation entre les deux femmes et puis on les embrasse. Parce qu'il faut rappeler que dans Friends, même dans Friends, vous vous souvenez, Ross, son ex-femme, est en fait lesbienne, elle va se marier. Oui. On va voir ce mariage gay, mais par contre, on ne va pas voir les deux femmes s'embrasser.
Oui.
Donc, tout ça a pris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, dans Desperate Housewives, si je ne me trompe pas, celle qui devient lesbienne, finalement, se fait tuer ou quelque chose comme ça.
Non, elle revient à la fin, mais elle n'est plus vraiment lesbienne.
Mais elle
ça
est plus
a été vraiment la pire storyline de l'histoire.
Donc, je pense que ce n'est pas pour ça qu'on retient Desperate Housewives. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent que la violence des femmes existe. Et ça c'est très très important de la représenter. Et je pense que c'est de voir des femmes qui tuent et qui vivent à côté de chez vous, c'était quelque chose qui n'était pas là avant. Et ça, c'est quelque chose qui est repris dans Big Little Lies. Ah, les femmes peuvent tuer.
Oui, et cette violence-là, effectivement, je pense que c'était presque trop effrayant jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Allez-y, un petit saut dans le temps. On saute en 2012. On voit débouler quatre autres New-Yorkaises. On en parlait à l'instant. Beaucoup moins branchées que Sex and the City. Beaucoup plus crues, beaucoup plus vraies, sans doute aussi. C'est la bande de Girls et c'est la bande de Lena Dunham.
Eh, hey, salut, t'es enceinte et t'en veux pas. Alors ce serait bien que tu viennes te faire avorter maintenant. Ok, merci, à plus tard. Non, sans déconner, dans le genre dégonflé, je vois pas pire que de pas se pointer à son avortement. Je veux dire, honnêtement, tu vois un truc plus irrespectueux que ça, à part tomber enceinte dans un premier temps? Sérieux, tu crois pas qu'elle pourrait au minimum décrocher son téléphone ou même nous envoyer un texto?
Elle sait pas comment envoyer des textos, elle appelle ça une alerte écrite.
Franchement, je sais même pas pourquoi je me sens concernée. À chaque fois que je me donne du mal pour elle, y a pas de répondant, je me heurte à un mur. Elle a aucun respect pour mon temps, pour mes efforts, pour mon amitié, pour ma gentillesse, rien du tout. Attends, tu te vois faire ça, toi? Tu te vois te retrouver enceinte de je sais pas quel étranger pas clair et même pas te pointer à ton avortement?
Je sais pas, j'ai jamais couché.
On a souvent présenté Girls comme la première série féministe. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre, Olivier
Joyeux? Non, mais j'adore Girls par contre.
Ouais.
Pour non, vous, je pense qu'il y a vraiment eu des... Ah oui, c'est ultra. Enfin, pour moi, c'est ultra féministe, mais d'un féminisme qui aujourd'hui aussi, heureusement, un peu remis en question, le féminisme blanc, le féminisme qui peut. Elle a été extrêmement critiquée. Je suis un peu mal à l'aise avec Lena Dunham, donc la créatrice, parce qu'elle a souvent dit un peu n'importe quoi. Les personnages racisés sont très minoritaires dans Girls.
On lui a reproché de ne pas leur faire de place au démarrage de la série, et puis alors du coup elle en a sorti un du chapeau.
Son petit ami de la saison suivante était noir. Et puis ça s'est finalement totalement évaporé, c'était pas le sujet de cette série-là. Hein. Son sujet c'était sa jeunesse à elle, et sa jeunesse à elle c'était pas ça.
Alors effectivement on lui a fait ce reproche-là, en revanche Girls a joué un rôle hyper important pour cette génération qui a pu s'identifier à elle. Iris Bray, vous en parlez dans votre livre, quel rôle, quel impact pour Girls?
Déjà, ce qui est important, c'est que HBO a fait confiance à une très jeune femme, hein, parce que c'est Lena Dunham est la créatrice, ouais. Elle est aussi l'actrice principale. Et
elle avait 25 ans, c'est
elle
ça?
Elle avait 25 ans quand, ouais. Quand elle a eu, quand elle Incroyable. A fait Girls. Du coup, ça nous a permis d'avoir accès à un nouveau type de récit, et il y a une certaine fraîcheur. Et moi, je me souviens très bien de découvrir Girls et de me dire, j'avais jamais entendu ce ton avant. Il y avait aussi une réflexion autour du corps féminin. Et comment est-ce qu'on peut présenter un corps féminin? Comment est-ce qu'on le sexualise ou non? Et aussi,
parce qu'elles sont pas toutes canon suivant les standards habituels dans les séries. Elles sont toutes belles, mais elles ont toutes des corps très différents et très, ouais. Finalement assez normaux.
Voilà. Et surtout, Lena Dunham disait que, bah, le sexe, c'était pas si bien que ça pouvait vraiment être nul. Et c'était la première série qui montrait vraiment l'échec sexuel.
Ça a dû en soulager plus d'une.
Exactement. Mais c'était hyper, c'est révolutionnaire quand même de montrer que c'est, le sexe hétérosexuel, c'est pas toujours bien. Et la pénétration, c'est pas toujours intéressant pour une femme. C'était la première fois qu'on voyait ça à l'écran. Et surtout, elle nous a appris à aimer son corps, Lena Dunham. Parce que, au moment, en fait, où elle se met beaucoup en scène nue, sur les réseaux sociaux, tout le monde disait qu'elle était trop grosse, que c'était inadmissible. En fait, on ne voulait pas voir ce corps-là. Et elle l'a continué de manière très courageuse, je trouve, au fil des saisons, de nous dire, bah, regardez, en fait, mon corps est beau. Mmh. Et moi, je me souviens très bien d'une scène où, en fait, elle se fait bronzer le sexe sur une terrasse. Et de me dire à ce moment-là, mais tiens, il y a un moment de poésie fulgurant et je la trouve belle. Et je me suis dit, elle a réussi. Elle a réussi son pari parce que moi aussi, dans la première saison, il y avait quelque chose qui me mettait très mal à l'aise dans la manière dont elle mettait en scène son corps nu. Et je trouvais ça dérangeant. Et je me suis dit qu'elle avait réussi son pari parce que c'était quelque chose de politique et qu'à force de nous dire, eh bien non, ces corps-là sont aussi des corps désirables et désirants, eh bien j'y croyais. Donc c'était fait. Et ça, je trouve que c'est très courageux et c'est très important.
Et quand les femmes sont aux manettes, on parle de jouissance, on parle de violence aussi, on l'évoquait tout à l'heure, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Olivier Joyard, Killing Eve, série britannique qui met en scène une tueuse traquée par une agente des services secrets. Et hop là, bande annonce.
Je travaille pour les services secrets. J'avais raison à propos de la meurtrière, ils veulent que j'enquête sur elle.
Et ils ont besoin de toi pour un autre job.
Quand? Je pense que cette femme tue à l'échelle internationale et qu'elle a déjà pris pour cible un certain nombre de personnes influentes dans le monde.
Elle est assez redoutable, hein, cette tueuse, ah ouais, Olivier.
Quand on parle de violence féminine, ouais. Là, je pense que c'est le plus fort qu'on ait vu, c'est Villanelle.
Et c'est ce qu'il y a de plus révolutionnaire, c'est d'aller chercher la violence chez les personnages féminins.
En tout cas, c'est un personnage féminin ultra effrayant, qui, moi, franchement, elle m'a fait trembler par moment. Parce que la série raconte, une double traque, hein, c'est une femme qui travaille pour le MI6, je crois, enfin, les services secrets britanniques, et qui cherche cette autre femme qui est une tueuse à travers l'Europe. Donc il y a un côté espionnage. Donc c'est quand même une série un peu presque dans la lignée d'Alias des années 2000 que j'aimais beaucoup. À la sauce contemporaine, c'était écrit pour la première saison par Phoebe Waller-Bridge, qui est la plus grande scénariste actuelle pour moi de série, qui a écrit Fleabag principalement.
Oui, bien sûr. Oui.
Qui va écrire le prochain James Bond. Elle a été rappelée à la rescousse comme ça pour mettre un peu de féminisme et de super dialogue dans le monde masculiniste du James Bond. Bah ouais, mais c'est vrai. Mais ouais, elle parlait tout à l'heure des créatrices Iris, Lena Dunham, et puis maintenant la créatrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, c'est ultra important. Non, et elle se permet des choses très très drôle, genre l'héroïne met ses tampons à côté de ses balles de pistolet dans son placard dans le premier épisode. Alors, ce genre de détails.
J'entends déjà râler, évidemment. Pourquoi on ne parle que de séries anglo-saxonnes, Iris Bray? Est-ce que c'est parce que ces pays-là restent les meilleurs pourvoyeurs de séries, ou c'est parce que sur ces questions-là, la France est particulièrement en retard?
Je dirais qu'on a environ 15 ans de retard.
Ah oui?
Oui.
Vendredi soir.
Voire plus.
Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment catastrophique ce qui se passe en France quand on parle de sexualité féminine, notamment sur le petit écran. Il y a très peu d'exemples. Les peu d'exemples qu'on a sont souvent des scènes ratées. On ne sait pas filmer le désir, ou en tout cas on a peur de le montrer.
Qu'il y a un problème de scénariste à la télé, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un problème sur la sexualité aujourd'hui en France et sur le plaisir féminin?
Ah bah je pense les deux. Je pense, que, non, je pense qu'il y a aussi un problème peut-être des personnes qui sont à la tête de certaines chaînes ou des personnes qui prennent des décisions sur ce qu'on peut voir ou ce qu'on ne peut pas voir. Ouais. Donc je pense qu'il y a, beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. Il faut absolument qu'on puisse développer plus de personnages féminins et surtout comprendre qu'une femme, jusqu'à très tard, a le droit à avoir accès à un désir.
Mais non.
Voilà.
Mais non.
Ce serait bien.
Ça, je peux pas vous croire.
C'est-à-dire qu'on prend pas la sexualité au sérieux, comme si elle était pas digne d'être filmée, en fait. Ouais. Même la sexualité masculine, hein, d'un certain point de vue. Ouais. C'est-à-dire que.
Ah, bah, c'est un sous-sujet. Et donc, c'est considéré comme un sous-sujet,
et donc,
évidemment.
C'est vraiment ça, le fond. C'est qu'il y a, la télé française, culturellement, pense que ces sujets-là sont pas sérieux.
Quelque chose me dit que vous allez revenir tous les deux pour une saison 2. Hein. On est obligé de s'en tenir là pour ce soir. L'heure passe très très vite, on est très en retard. Il est temps de retrouver deux guests de choix dans le décor de Passons Genre. Elle est plus Big Little Lies que Desperate Housewives. Il a son petit côté Prince de Bel-Air blanc. C'est Madonna et Justin Timberlake en duo. Profitez-en, ils sont là pour 4 toutes petites minutes. Dansé en régie, croyez-moi, ça dansait nu sur la console à la technique ce soir. Nicolas Slimani à la réalisation, Marianne Crimbaud, attachée de production, Romy Engels. Ils ont remis leur chemise pour pouvoir poursuivre la discussion un peu plus décemment. Nos deux fous de série, Iris Bray et Olivier Joyard, ils les ont rejoints en moonwalk et en studio. Isabelle Motreau, directrice de la rédaction de Cosette, et Elliot Lepers, web activiste et directeur exécutif de l'ONG Le Mouvement, co-organisateur entre autres des grandes marches pour le climat. Bonsoir, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et bravo pour le moonwalk. Vous êtes plongé toute la journée et toute la semaine. Ah non, vous êtes bon, vraiment. Le reste du temps, quand vous ne moonwalkez pas, vous êtes au taquet sur l'actualité du genre et des sexualités. Vous en avez de la chance. Avec vous, deux héroïnes ce soir, deux héroïnes de la vraie vie. Pour le coup, on les appelle Greta et Mathilda.
France Inter, Passons Genre.
On a vécu aujourd'hui l'un des appels à mobilisation les plus massifs jamais organisés pour le climat. 150 participants, 5000 événements dans le monde entier, des millions de jeunes dans la rue pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics. Ce Friday for Future est le coup d'envoi de deux semaines d'action à l'origine de ce mouvement. Greta Thunberg, évidemment, invitée au sommet de l'ONU pour le climat à compter de lundi. Elle est arrivée à New York à la toute fin du mois d'août, après une traversée de l'Atlantique qui avait encore beaucoup fait parler d'elle. À peine arrivée, elle prend le micro et s'adresse à Donald Trump.
All of this is very overwhelming.
Tout ceci est vraiment énorme. La terre tremble encore pour moi.
But I want to thank
Je veux remercier chacun énormément Chaque personne ici et chaque personne embarquée dans ce combat pour le climat, parce que c'est un combat au-delà des frontières, au-delà des continents.
Greta Thunberg est votre invitée dans Passons Genre ce soir, Elliot Lepers. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Bah, ça fait un an qu'elle est dans le paysage médiatique. On la connaissait pas. Elle a décidé toute seule d'aller devant le Parlement en Suède, alors que personne ne semblait intéressé par son idée. Et puis ça a fait boule de neige. Elle a été suivie un peu en Suède et puis en fait dans le monde entier. Et elle représente pour moi une nouvelle génération de leaders politiques. Mmh. Et en fait, elle emmène à la fois, elle incarne ce que pourrait être cette nouvelle génération, ce que pourrait être cette nouvelle manière de faire de la politique, et aussi ce qu'elle pourrait être les nouvelles militantes. Parce qu'elle est suivie et bien par des gens qui lui ressemblent.
Et donc en fait, c'est pas sorcier.
Mais déjà des femmes, mais par centaines et par milliers qui sont visibles en fait sur ce sujet-là, évidemment du climat, mais aussi sur d'autres sujets, de sujets radicaux de transformation de la société. Mais c'est Greta. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que cette question-là du climat, elle a été portée par des jeunes activistes dans le monde entier. Elle a été portée par Harriet Oshikar, Emilio Albrecht en Australie, par Adélaïde Charlier en Belgique, par Rebecca Hamilton au Canada, par Luzanne Boyer en Allemagne, qui sont des jeunes femmes qui ont moins de 20 ans, qui toutes ont réussi à incarner pour leur génération cette mobilisation. Et aussi pour la cité, Anuna de Wever, qui se revendique non-binaire, donc qui ne se reconnaît ni homme ni femme. Et donc ça, c'est aussi très intéressant de voir la mixité avec la revendication de genre et des identités, parce que on sait aussi que les femmes sont les premières victimes des dérèglements climatiques, et c'est assez nouveau que sur un sujet comme ça, on ait effectivement une visibilité aussi forte.
On pense aussi, vous parlez de femmes qui se bagarrent sur des terrains qui sont sensibles, voire explosifs. On pense aussi, évidemment, à Carola Rackete, hein, qui sauve des migrants en pleine mer. On pense, évidemment, à Alexandra Ocasio-Cortez, qui est en train de devenir une figure de l'opposition anti-Trump. C'est un hasard, ça, ou pas? Le fait que ces femmes-là investissent ces terrains-là toutes en même temps. Isabelle Motreau?
Mais non, c'est pas du tout un hasard, parce que on voit bien que dans tous les terrains, sur tous les terrains, les femmes gagnent du terrain, précisément. C'est-à-dire que, il y a eu l'effet MeToo, sans doute, mais l'effet MeToo n'est pas né non plus par hasard. C'est-à-dire que il y a une lame de fond. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Je sais pas si vous partagez.
Est-ce que c'est aussi peut-être une colère que du coup elle transforme en combat? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là?
Oui, bien sûr. Bah, ça veut dire que ça fait quand même 30 000 ans qu'on attend de pouvoir parler. Donc, il y a un peu de colère, quoi. Effectivement, il y a ça. Et puis, je pense que les femmes sont quelque part peut-être plus structurées dans leur colère, précisément. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois cette énergie de revendiquer les choses, mais en même temps peut-être moins d'agressivité au sens négatif du terme, c'est-à-dire peut-être plus de profondeur dans la réflexion.
C'est-à-dire qu'on les traite préférablement d'hystéro, quoi.
Bah, justement, comme on les a traités d'hystéro pendant très longtemps, elles font très attention à ça.
Ouais. Olivier Joyard.
Ça me faisait juste penser à ce qui a été dit sur cette antenne ce matin par Alain Finkielkraut sur Greta Thunberg, qui dit « c'est une parole puérile ». Donc c'est dingue, on n'est pas sorti de l'auberge quand même, parce que tout ce qui est en train d'être raconté là. Oui, mais c'est quand même, c'est pas rien de dire parole puérile, parce que ça veut dire vraiment que c'est des paroles qui sont pas validées en fait.
Ouais, par l'autorité qui elle serait incarnée par les hommes intellectuels.
C'est très inquiétant que ça existe encore. En
fait. Et effectivement, Elliot Lepers, elle est une icône pour toute une génération. Et puis au-delà de sa génération, et en même temps, pardon, mais elle en prend plein la poire depuis un an. Comment vous l'expliquez ça?
Ouais, c'est vrai qu'on se souvient d'ailleurs de sa venue en France et la manière dont elle a été reçue par les députés qui, en fait, on dit on va quand même pas écouter une gamine de 16 ans qui vient nous expliquer la vie, alors que ça fait 40 ans que les scientifiques les plus renommés leur expliquent la même chose, mais qu'ils n'écoutent pas non plus. Hein. Mais effectivement, elle incarne en fait un nouveau monde, et elle incarne aussi la fin du monde de nos dirigeants qui nous ont mis dans cette situation, mine de rien. Et elle a cette maîtrise de son discours. Elle sait où elle va. Elle est extrêmement extrêmement pointue sur les sujets qu'elle aborde, et elle le fait effectivement avec une sorte de colère froide où elle est tout le temps en train de se détacher finalement de son discours. Et elle vit cette violence là au quotidien. Elle exprime aussi que c'est son moteur. Et je pense que le fait d'être féministe, finalement, le fait d'avoir conscience du combat féministe, ça prépare à être tous les autres combats.
Iris Bray, d'un mot rapidement, Greta Thunberg, c'est une bonne héroïne de série télé ou pas?
excellente, mais je pense qu'il faut arrêter de parler de colère, qu'il faut parler de rage. La rage des femmes, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur ça. Il faut savoir que la rage des femmes est souvent la base de tous les grands mouvements sociaux. Donc parlons de rage et n'ayons plus peur de ce mot.
Disons-le, la rage, pas la colère. Greta Thunberg, au premier plan aujourd'hui, sera-t-elle tombée dans l'oubli demain? Le pire, c'est que ça se pourrait bien. Oui, elle est une femme, donc elle pourrait disparaître de nos mémoires, à moins de croiser une Isabelle Motreau sur sa route. Isabelle Motreau, les journées du patrimoine ont lieu ce week-end et ça, ça vous interpelle. Pourquoi?
Bah, ça m'interpelle parce que moi, je suis plutôt pour les journées du matrimoine, vous voyez. Parce que je pense qu'il est temps de sortir les femmes de l'invisibilisation, c'est difficile à dire, hein, c'est exprès sûrement, dans laquelle elles sont tombées, dans laquelle elles ont toujours été maintenues en fait. Donc on parle de patrimoine, mais en fait, si vous faites attention, ce sont des œuvres qu'on met en avant qui sont majoritairement, une majorité écrasante, des œuvres et des monuments faits par les hommes. En fait.
Est-ce qu'on a des exemples de femmes volontairement effacée de l'histoire?
Ah bah oui, ça s'appelle l'effet Matilda.
Là voilà, donc la Matilda.
Voilà, voilà. Alors l'effet Matilda, c'est une historienne des sciences qui a créé ce nom et ce concept, qui s'appelle Margaret Rossiter. D'après Matilda Gage, qui était une suffragette que vous ne connaissez pas, évidemment, puisque c'est l'effet Matilda. C'est-à-dire que en fait, ce sont des femmes, c'est surtout vrai dans le domaine scientifique, qui ont créé, inventé, travaillé, trouver des choses, fait des découvertes qui ont été retirées, qui leur ont été piquées par leur mec, leur patron, leur frère, leur père, leur cousin, Dieu, je ne sais quoi, et qui ont été récupérées par des hommes, quoi.
Parmi elles, il y avait aussi la toute première réalisatrice de cinéma, Alice Guy. Écoutez bien, c'est une archive très rare et c'est grâce à vous, Isabelle, si on la diffuse ce soir.
À ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues, des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas.
Une affaire de jeune fille de cinéma, on peut dire qu'il a eu le nez creux, hein, Gaumont. Qui était Alice Guy? Qu'est-ce qu'elle raconte selon vous l'histoire des femmes?
Alice Guy, bah, c'est vraiment un exemple. Elle est exemplaire. Alice Guy, 1873-1968, hein, je resitue. Mm-hmm. C'est finalement la première femme qui a fait du cinéma au sens de la fiction. Elle a fait un film de fiction qui s'appelle La Fée aux Choux en 1896, donc avant Méliès, qui est à peu près la même année en tout cas. Elle a fait des centaines de films, parce qu'à l'époque, vous savez, c'était quelquefois des films qui faisaient quelques minutes, hein, mais elle en a fait des très longs également. Ouais. Elle a commencé, c'est elle qui a fait les sagas les plus longues, qui a utilisé les effets spéciaux, qui a fait un western. C'est dans ces films qu'on voit pour la première fois des hommes s'embrasser. Et tout ça, on l'ignore. On l'ignore parce que, eh bien, au début, c'était des histoires de jeunes filles, le cinéma, donc on laissait ça aux filles.
Quand ça a commencé à marcher.
Et quand ça a commencé à marcher et à être un peu lucratif,
voilà.
Les hommes sont arrivés, ont repris l'affaire et l'ont si bien géré qu'Alice Guy a été ignorée pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Je vois Iris Bray qui n'arrête pas de prendre des notes et de faire oui vigoureusement de la tête, je vous en prie, Iris.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut aussi dire qu'elle a énormément inventé. C'est la première à utiliser le gros plan à des fins dramatiques. On a dit que c'était Griffith, mais c'est pas vrai,
pas
en fait,
tout.
C'est Alice Guy, c'est la première, donc elle utilise ça dans un film qui s'appelle Madame à ses envies, où elle filme une femme enceinte qui a envie de mettre des objets phalliques dans sa bouche, on est en 1905, enfin c'est des images extraordinaires. Elle a fait un film qui s'appelle Les conséquences du féminisme, qui est absolument brillant, quand on tombe dans Alice Guy, on a envie de passer toute sa vie à regarder son œuvre, et sur les centaines de films qu'elle a fait, très peu ont été sauvegardés. C'est une histoire absolument tragique, puisqu'elle a quand même, elle est morte seule, sans reconnaissance, et Pathé a juste boudé son histoire. Bon, elle a une petite salle à la Fémis dans l'école de cinéma aujourd'hui.
Voilà. On lui rend justice, on va rendre justice à toutes ces femmes très très rapidement, entreprendre ce boulot nécessaire de rééquilibrer un tout petit peu les choses au matrimoine, oula, de Passons Genre, vous mettriez qui? Ça peut être quelqu'un de votre vie à vous, ça peut être un personnage public, hein, une femme qu'il ne faudrait jamais, jamais, jamais oublier. Olivier Joyard, vous avez une idée?
Moi, aujourd'hui, Céline Sciamma.
Ah, vraiment. Ouais. Donc on va voir son
grâce
film.
Grâce à elle, les jeunes filles sont en feu maintenant.
Donc, donc on court au cinéma.
Portrait de la jeune fille en feu, elle fait le film de l'époque et le film de l'année.
Ok. C'est bon, Iris Bray.
Oh bah Céline aussi, mais aussi Chantal Akerman, je pense, comme cinéaste absolument culte. Et j'ai aussi une pensée pour Hélène Cixous, qui a parlé d'écriture féminine dans les années 70 et qui a écrit Le rire de la méduse, qui est un grand, grand essai.
Ok, on en a trois. Elliot.
Ada Lovelace, peut-être, qui est une des pionnières de l'informatique, en fait, et qui a, voilà, qui a été complètement effacée de l'histoire des ordinateurs, alors mais que, voilà, elle les a. Très, 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 très largement inventé.
Il est très, très beau, ce spectre de passons genre, de l'informatique au cinéma, en passant par la littérature. Elle et le rap, elle, on va la rajouter au matrimoine de passons genre. Elle a un flow, une énergie, comme on les aime, originaire de Zambie, la rappeuse Sampa the Great s'émancipe et ça lui va très, très bien. Après avoir assuré les premières parties de Lauryn Hill et de Kendrick Lamar, elle vient tout juste de sortir son premier album, toute seule, comme une grande, The Return, et ça donne ça. With grace, baby, I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. It's basic, past credentials, but understand your favorite rapper peep my gold potential. I'm out of shame, been past it, trying to fit the circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic, young veteran, new classic. Knock the walls off, the whole key we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits. I hate to say my feelings for you still exist. Credit my mega, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back design, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this I put my pen in, they got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh on my flesh. Witness in me, you can't make me feel less. Let's hold, I'm not impressed. Best mode, got my effort like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born gray. I be mad 2 G's, third world in it, first world I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, we incarnated. Tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Final Form, Sampa the Great. Voilà l'une des jolies pépites choisies pour vous, comme tous les vendredis par Thierry Dupin. Vous retrouverez évidemment toute sa programmation musicale sur franceinter.fr, à la page de Passons Genre.
Passons Genre. Julia Foyce.
Et maintenant, imaginons un monde qu'on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, on en ferait ce qu'on veut, ce monde-là. C'est le nôtre, vous qui nous écoutez, vous qui êtes en studio avec nous ce soir. Dites-moi, Iris Bray, si un objet, un mot, une représentation racontait votre féminin, ce serait quoi et pourquoi?
C'est les clés de mon vélo, parce que c'est ce qui me donne accès à une certaine autonomie et une certaine liberté dans une ville qui a été conçue quand même pour les hommes. Il faut rappeler qu'en France, 100% des femmes ont été harcelées dans les transports en commun.
Nouvelle campagne d'oser le féminisme d'ailleurs sur le sujet pour un wagon sans couillon.
Voilà. Donc oui, donc je pense que le féminin, il se construit aussi avec la peur, malheureusement, il faut le rappeler.
Et ce vélo, est-ce qui vous empêche d'avoir peur?
Oui, absolument, ouais. Parce que je suis seule et qu'il n'y a pas de prédateurs autour de moi qui ne ressemblent pas à des gros crocodiles par ailleurs.
Vous, Olivier Joyard, ce qui pourrait raconter au mieux votre masculin, ce serait quoi ?
Moi, c'est un film. Enfin, j'ai apporté le DVD de Basic Instinct que j'ai vu quand j'étais un peu plus jeune et qui, je me suis toujours demandé pourquoi on se souvenait que des jambes de l'héroïne incarnée par Sharon Stone qui se dépliaient et pas des regards sur elle, en fait. Pourquoi on n'interrogeait pas ses regards masculins qui... Il y a vraiment un plan incroyable sur ce type qui bave quasiment devant ses... et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, je l'ai vu beaucoup de fois, qu'au fond, Verhoeven, le réalisateur, filmait une sorte d'impasse du désir masculin dominant. Donc ça m'a un peu mis, ça m'a mis une claque.
Quoi. Vous étiez quel genre d'ado au moment où vous tombez sur ce film et ça vous a fait quoi ?
Ça m'a... Ah, c'est l'entrée dans la sexualité, c'est quelque chose qu'on n'interroge pas en fait. Ça permet d'interroger pourquoi on regarde quelqu'un, pourquoi on désire quelqu'un, le cinéma, les objets artistiques d'une manière générale. Donc ça m'a vraiment remis à ma place d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'ai dû être beaucoup plus dans une intériorité pour désirer que d'être dans la projection de désir qu'on avait mis en scène pour moi.
Et si vous le regardiez aujourd'hui ? Imaginons que vous le découvriez aujourd'hui, vous pensez que ça vous fera cet effet-là aussi, ou est-ce que c'était lié au fait que vous étiez adolescent ?
Je pense qu'on verrait la violence du film pour les personnages masculins, et contre les personnages masculins, et peut-être qu'on considérerait que c'est une forme de film féministe, alors qu'il a été... Ah oui. Voilà, on considère que ça, c'est la femme fatale
revisitée. Je vois les sourcils d'Isabelle Montreux se lever sur le film.
C'est un film très ambigu et très... Et Verhoeven, ça a continué pendant 30 ans. Hein, c'est encore le cas avec elle récemment.
C'est vrai que c'est un film ambigu, en tout cas. Ce serait intéressant de le revoir. C'est vrai qu'avec ce regard que vous avez, peut-être qu'on pourrait sauver certaines scènes.
Eh ben, splendide. Je prends le vélo d'Iris Bray et le type qui bave devant Sharon Stone pour Olivier Joyard. Je les ajoute à notre fabrique du féminin masculin. Ils vont rejoindre le vélo de Geneviève Fraisse. Oui, là aussi. Le clitoris de Sophie Gourion. Improbable, mais oui. Le pot de confiture de Maître Emmanuel Daoud. Les ciseaux de Marie Laborie et le fantôme de Simone de Beauvoir. Ça, c'était pour Isabelle Laurence la semaine dernière. Quant à vous, qui nous écoutez, vous êtes évidemment les bienvenus dans ce labo du genre. Dites-nous quel objet raconte au mieux votre féminin ou votre masculin. Écrivez-nous sur la boîte mail de l'émission. Ouais, on en a une, c'est tout beau, c'est tout frais, ça vient de sortir, on a mis un mois, tout va bien. Passongenre @radiofrance.com ou bien directement sur mon compte Twitter, promis. Je fais remonter les infos à l'antenne dès la semaine prochaine. Vous l'entendez là, le générique. Ben voilà, ben ça veut dire que c'est fini, qu'il va falloir se dire au revoir. Et puis bien sûr, à vendredi prochain. Iris Bray, je rappelle le titre de votre dernier livre, Sex and the Series, et c'est aux éditions de l'Olivier et à paraître en février sous nos yeux, et c'est sur le male gaze au cinéma, hein, c'est
non,
ça ?
Le female gaze.
Ah, le female gaze, pardon.
Bien sûr.
Pardon, boulette.
Nouvelle ère, révolution.
Et donc, vous reviendrez nous en parler, évidemment, ouais. J'espère. On vous laisse faire quelques petites choses d'ordre personnel hein, que vous avez en fabrication, et puis après, vous revenez. Olivier Joyard, votre documentaire Binge Mania est, lui, disponible sur MyCanal jusqu'en avril 2021, ce qui nous laisse un tout petit peu de temps. Isabelle Motreau, le nouveau Cosette, arrive en kiosque dès mercredi. Un mot sur le dossier en
ligne. Le dossier, c'est féminisme et bistouri. Est-ce que retoucher, c'est tromper ?
Ah, on me dit dans le casque, pardon, je vous coupe, que je n'ai pas donné la boîte mail de Passongenre. C'est donc passongenre@radiofrance.com. Et donc la une de Cosette.
Pardon. Féminisme et bistouri retouché, est-ce que c'est trompé ?
J'adore. On vous reverra évidemment dans un mois dans Passongenre, car nous sommes partenaires et que ça, c'est une très bonne nouvelle. Elliot Lepers, vous aussi, vous repasserez par là. En attendant, je donne l'adresse internet de votre ONG, le mouvement tout attaché. .ONG, là j'ai bon ?
C'est bon.
Eh ben super, restez à l'écoute de France Inter tout de suite après le flash, ce sera Laurent Gouma et si vous êtes fan de série, une heure en série avec Xavier Le Herpeur, c'est tous les samedis à 20h sur Inter.